Le livre des règlements.
Le résultat de votre analyse ?
Le règlement. Nous devons savoir.
J'aimerais une suspension de séance.
La cour attendra une réponse.
Avec votre arbitre, maître Sophie Mongeon de Desroches Mongeon, avocat.
Nous en respectons les règles.
Voici le livre des règlements.
Moi, je l'appelle maître Sophie.
C'est
parfait. C'est plus intime. Comment ça va, maître Sophie?
Ça va très bien, et vous?
Bonjour, Sophie, ça va bien?
Oui.
Aujourd'hui, là, elle met vraiment le doigt sur le bon sujet en ce jour de match numéro 7 entre les anciens Expos et les Astros de Houston, parce qu'elle nous parle de Jeffrey Loria.
Oui, effectivement. Je me suis dit que c'était un beau moment d'en parler parce que depuis qu'il est parti de Montréal, ses déboires ne sont pas terminés. Au contraire, ils se poursuivent quand même. Puis je trouvais que c'était une belle occasion d'en jaser.
C'est pas l'homme le plus aimé de la Terre, hein?
Non, puis il laisse des traces de médisance au fur et à mesure là, qu'il passe à travers la Ligue. Alors,
sur le Titanic, là, il jouerait le personnage de celui qui disait qu'il était insubmersible quand il a pris le iceberg. Là. Ben, ouais. Il était submersible!
Il serait le premier sur le canot, en tout cas.
Est-ce que Petit Trou est prêt aussi? Et puis là, il est plus dans le décor?
Ça, c'est Samson, son acolyte.
David
là,
Samson.
Son genre.
Son acolyte, oui, c'est ça.
Exact.
Mais dans les documents que j'ai regardés, j'ai pas vu qu'il ait été nommé là, okay. Dernièrement.
Mais on a déjà un chien sale aujourd'hui. On va parler de Jeffrey Loria. On va parler de lui.
C'est bon.
Premièrement, j'aimerais vous dire que.
C'est pas très juridique comme terme, pardon.
Non, effectivement. Pardon. Mais notre cher Jeffrey Loria est encore devant les tribunaux et le 11 juillet 2019, il y a eu un nouveau jugement qui a été rendu par rapport à l'arbitrage. Donc, je vais vous expliquer pourquoi il est devant les tribunaux. On se rappelle que Jeffrey Loria a acheté les Marlins en 2002 pour une somme de 158 millions. Il l'a vendu récemment, en 2017, pour 1,2 billion de dollars. Faites le calcul.
C'est des milliards, ça.
1,2 milliard, c'est...
Un milliard, 1 000 millions, 200 millions.
Tabarouette, c'est du stock.
C'est beaucoup d'argent. Mais quand il a acheté les Marlins, donc, est-ce que c'est lui qui a sorti cet argent-là de sa poche de 158 millions? Non. Ou qui a pris cet argent-là?
Ben, il y a des bons chums.
Oui, il y a des bons chums qui s'appellent la perte des Expos. On se rappelle qu'en 1999, Loria a acheté 24 % des actions des Expos. Ce qui est arrivé, c'est qu'il a augmenté la masse salariale de façon importante pour, dans l'objectif d'obtenir évidemment des gains, mais ça a causé un énorme déficit. Là, ce qui est arrivé, c'est que tous les autres partenaires, les actionnaires des Expos étaient non satisfaits, évidemment. Leurs actions en valaient plus beaucoup. Donc, ils ont fini par les vendre. Mm-hmm. Fait qu'il a acheté pour 18... Calculez vos chiffres, là. Pour 18 millions, il s'est rendu à 94 ou 96. Là, les données diffèrent un peu, mais très peu. Il s'est retrouvé pour 18 millions avec 94 % des Expos.
Hein?
Oui.
18 millions, 94 % des actions des Expos.
C'est ça. À ce moment-là...
Simonac.
On avait Alan Bud Selig, qui est le...
Ouais, commissaire
à l'époque.
Commissaire
à l'époque. Qui, ouais. Lui, il avait un problème avec Boston et Miami. Et on savait que Henry, qui appartenait aux Marlins, il voulait les Red Sox. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Selig a permis la transaction et Henry a eu les Red Sox et Loria a échangé les Expos pour les Marlins. Mais qui a payé pour les Expos? Parce que les Expos se sont évidemment retrouvés à Washington, si on le sait. Mais finalement, c'est tous les propriétaires de la Ligue de baseball majeure qui ont cotisé 120 millions pour acheter les Expos.
Exact. Pour ramasser les Expos qui étaient maintenant propriété du baseball majeur.
Ouais. Exact. Loria, donc lui, se retourne et achète les Marlins pour 158 millions. Mais faites le calcul. 158 millions moins le 120 millions qu'il vient de vendre.
Ça fait 38.
38. Donc, une trentaine de millions. Une trentaine de millions. Fait que c'est pas beaucoup pour l'achat quand même.
Mettons 40, là.
Mais on a rendu à 40 pour l'exercice.
Ça, c'est là. Maintenant, il est donc propriétaire des Marlins. Et investissement, on parle de 40 millions de dollars.
Maximum pour lui.
C'est ça.
Maximum.
Oui. En 2009, il trouve que le stade n'est pas adéquat. Puis pour assurer une pérennité, il demande à Miami et le comté de Miami-Dade, qui est le comté pour...
Une espèce de province de l'État.
Oui, c'est ça.
C'est des comtés dans l'État. Ouais, même ça marche aux États-Unis.
Exact.
Et il dit, j'ai besoin d'un nouveau stade.
Ouais.
Le nouveau stade coûte 600 millions.
Mais je ne veux pas mettre une scène.
Ben
dans le fond, c'est ça. Là. Je veux un nouveau stade flambant neuf, mais je ne veux pas mettre une scène.
Exact. Fait qu'il a emprunté 500 millions à Miami et le comté de Miami-Dade. Fait que son nouveau stade, à lui, il a à peine investi 100 millions. Mais ce n'est pas lui, évidemment. Là. C'est par paiement, là, finalement, qu'il rembourse tout ça.
Tout à fait.
Donc, quand il décide de vendre en 2017, on se rappelle, il a fait 1,2
milliards dans la vente des Marlins.
Donc, non seulement ils
venaient avec le stade, c'est ça, les Marlins venaient avec leur stade bâti par les fonds publics. Là.
C'est ça.
Ouais. Et c'était prévu dans l'entente qu'ils avaient signée en 2009 avec Miami et le comté que s'ils vendaient avant 2018, il fallait qu'ils donnent 5 % de la vente. Donc, c'était quand même intéressant parce que Miami...
Oui, 5 % de 1,2 milliard, c'est quand même...
Mais finalement, c'est pour ça qu'il est devant les tribunaux, il n'a jamais versé une cent ni à Miami, ni au comté de Miami-Dade.
Bon, pourquoi Jeffrey Loria ne verse pas un sou après sa vente d'1,2 milliard?
Fait c'est quoi son argument principal? Il lui devrait comme 60 millions dans le fond, là, à peu près. Là. 5%, c'est 60 millions.
Oui, c'est quand même beaucoup d'argent là, pour ceux qui ont investi. Mais... On se rappelle qu'ils ont quand même investi 500 millions, là, pas en montant direct, mais en exemption de taxes.
Mais il ne veut pas payer, lui.
Non, parce que dans l'entente de 2009 qu'il a signé avec le comté puis la ville de Miami, c'était prévu qu'il pouvait déduire certains frais qu'il avait accumulés depuis l'achat. Et les rumeurs disent que pendant le temps qu'il était propriétaire, il aurait fallu qu'il mette de l'argent personnel là-dedans pour tenir les Marlins à flot. Mais quand il est venu le temps de la vente, moi, je dis tout le temps, on peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut bien. Bien, finalement, en bout de ligne, après le calcul de sa firme financière, le bénéfice était de zéro.
Alors, lui, il fait 1,2 milliard, mais son bénéfice est de zéro en calculant de la bonne façon.
Ben, en calculant
il y a beaucoup de bonnes dépenses.
Mais en calculant
de sa... 40 millions de
méchant,
poches,
méchant crosseur. Je regrette, là. Pas à peu près.
Ou intelligent, je sais pas.
Crosseur intelligent.
Ouais.
Les gens qui sont riches, des fois, ne sont pas riches pour rien. Hein?
Non, c'est ça.
Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il y avait dans ces dépenses-là? Effectivement, là, les chiffres ne sont pas tous sortis. On n'a pas toute cette information-là. Mais ce qu'on saurait, c'est qu'il aurait mis des sous qu'il aurait investi personnellement pour soutenir les Marlins pendant les quelques années. Et il aurait fait une déduction de 30 millions à une firme comptable. Moi, je vous dis, là, si faire une coupe de chiffres, là, une firme comptable peut faire 30 millions. Moi, je change de job. Là. Clairement, ça n'a pas de sens. Et on continue, là. Ce 30 millions-là dans cette firme-là, ben Loria a des avantages financiers dans cette firme-là.
Fait Loria est au sport l'équivalent de cet homme qui était parti avec un trombone rouge pour se retrouver avec une maison, là. Celui qui a fait des échanges du troc, il est passé avec un trombone rouge, puis finalement, là, après tous ces trocs, t'as pas vu ça, cette histoire-là?
Non.
Il faut que je t'envoie ça. Non, personne n'a vu ça. Tu l'as vu, Ben? OK,
ben,
parfait.
Ben,
il est passé avec un trombone rouge, ça a donné une maison à la fin de tout
oui,
là.
Oui, je me rappelle de ça. Tranquillement pas vite, il échangeait au fur et à mesure une trombone rouge pour quelque chose de plus grande valeur, et ainsi de suite.
Loria, c'est ça. Là, il peut pas s'acheter une cambuse. Là, il est rendu qu'il peut s'acheter un continent. Là.
Écoute, moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Et en plus, depuis cette vente-là, en 2017, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'on en reparle aujourd'hui? C'est parce que le 11 juillet 2019, finalement, il y a eu un jugement qui est un peu en faveur de Loria. Vous allez être déçus, là, puis des Marlins.
C'est sûr.
Parce que dans une transaction, il y a souvent une clause d'arbitrage. Une clause d'arbitrage, dans le fond, ou une clause compromissoire, c'est que ça permet aux gens d'éviter les tribunaux civils. Puis l'objectif, c'est la résolution des conflits au lieu d'aller devant les tribunaux civils. Et c'est ce que Loria voulait, et les Marlins aussi, tandis que la ville voulait aller devant les tribunaux civils. Donc, pendant 2 ans, il y a eu une bataille de cours d'appel et de cours d'appel afin de savoir est-ce que c'est l'arbitrage qui va scinder le débat, qui va le clore, ou c'est devant les tribunaux civils. Mais en juillet 2019, c'est clair que ça va être l'arbitrage. L'arbitrage, c'est une rencontre qui est privée, comme nous trois, là, actuellement, puis que les médias n'ont
pas...
Avec quelques témoins, mais les médias n'ont pas accès... Et c'est pas public.
OK.
Donc, si l'arbitrage va de l'avant, on saura jamais exactement l'ampleur des déductions puis qu'est-ce qu'il a fait. Et ça lie les parties. On peut pas le porter en appel. C'est comme des fois dans des contrats de travail, là, il y a des clauses d'arbitrage. Donc, au lieu d'aller devant les tribunaux civils, il y a un arbitre qui est nommé, puis à ce moment-là, qui tranche le débat entre les parties. Fait que ceci étant dit, je vous promets que je vais faire un suivi là-dessus dès que le jugement
est
rendu.
Très intéressant.
Mais ça fait 2 ans et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a tant de faire avec son 1,2 milliard. Probablement, il n'aura plus et puis ça ne sera pas retraçable.
En tout cas, ce qui est vrai, c'est que Jeffrey Loria, autant à Montréal qu'à Miami, les places où il est passé comme propriétaire, n'est pas la personne la plus populaire.
Non,
alors, si tu peux
pas.
Être riche, mais pas te présenter à mairie, par exemple. Avant de se laisser, petite histoire intéressante qui touche les genres dans le sport. On sait que... Maintenant, dans les questionnaires, il n'y a plus juste hommes et femmes. Ça, on le sait.
Ouais.
Mais il y a des femmes qui ont plus de testostérone, qui ont de la misère à compétitionner, alors qu'un homme devenu une femme a sa place. Donc ça apporte quelques disparités, là.
Oui, vous vous rappelez qu'on a déjà parlé du cas de Caster Semenya, une athlète qui a une condition d'hyperandrogynie, donc qui produit plus de testostérone qu'une femme régulière. On sait qu'elle se bat actuellement devant le tribunal arbitral du sport en Suisse pour avoir droit de compétitionner. Elle a été, elle n'a pas le droit de compétitionner récemment au championnat mondial de Qatar et elle est retirée de la compétition pour l'instant. Toutefois, ce week-end, Rachel McKinnon, est-ce que vous savez c'est qui?
Ça, c'est la coureuse cycliste?
Oui, effectivement.
Merci à ta recherche.
Ouais, c'est une personne transgenre.
Oui.
C'est une personne canadienne qui nous représente au cyclisme. Ce week-end, elle a gagné, elle est devenue championne du monde en cyclisme sur piste.
Féminin.
Féminin.
Parmi les femmes.
Parmi les femmes.
Née avec un corps d'homme, devenue une femme parce qu'elle se sentait femme en dedans d'elle.
Oui.
Et c'est correct, on accepte ça, mais elle concourt contre des femmes qui ont des corps de femmes. Et elle était acceptée et elle a gagné en fin
oui,
de semaine.
Oui, elle a accepté, elle a gagné. C'est sûr qu'elle est quand même soumise aux règles où son taux de testostérone doit être diminué, oui. être en bas d'une limite quelconque, mais ça n'empêche pas que naturellement, un homme qui vient au monde va avoir une masse musculaire beaucoup plus grande
exact.
Qu'une femme. Et elle ne l'a pas perdue. D'ailleurs, quand on regarde les photos sur le web, je vous invite à le faire, elle doit dépasser les autres femmes d'une couple de pouces certains. Là. Tu sais, c'est, mm-hmm.
Plus massive. Là.
Elle est beaucoup plus massive. Fait qu'il y a certaines adversaires qui trouvent que c'est pas juste. Et il y a un petit côté de moi ce matin qui dit, ben, effectivement, comment ça se fait que la personne transgenre, elle, a peut compétitionner dans une compétition féminine en cyclisme versus Mme Semenya qui, elle, est une...
Vient de la voir.
On va dire la voir, mais en même temps, est-ce qu'on peut aller jusqu'à la placer à travers les autres femmes dans une compétition comme ça? C'est tout un débat moral et éthique ici. Là.
Oui.
Sans vouloir discriminer, ben là, qui on discrimine? Elle, parce qu'on l'a fait concourir, ou les autres qui doivent subir la défaite ensuite? Là? Ben oui, tu vois, tu montres la photo là, de ce...
C'est plus la grosseur des cuisses.
Ben
là.
Oui, c'est
il y a des jambes là-dessus. Là. C'est des bonnes jambes. Hey, c'est tout le temps qui nous reste,
parfait.
Mais allez voir la photo. Rachel McKinnon, qui elle est un homme devenu une femme, donc une transgenre. Allez voir Casté Semayan.
Semenya,
c'est ça. Qui est une femme en athlétisme et qui elle a un haut taux de testostérone, mais pour une femme. Elle est naturellement une femme. Elle est une femme et elle est toujours.
Oui.
Ah, très intéressant. Merci beaucoup, Maître Mongeon.
Bonne semaine.
Merci, ça fait.